vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, Godin.
Au cinéma sur Radio B et diffusé tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Cinéma de Saint-Antal et de film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous vous en souvenez sûrement, en 2015, nous étions nombreux à découvrir estomaqués les images folles et furieuses du dernier Mad Max. Avec sa brutalité et ses images spectaculaires, Fury Road a fait ressurgir sur les écrans du monde entier un cinéma que l'on pensait oublié, et dont son réalisateur George Miller fut l'un des grands ambassadeurs, le cinéma australien. Alors pour le grand public, le cinéma australien, c'est sans doute plutôt Nicole Kidman ou Crocodile Dundee. Autrement dit, quelques gloires ayant réussi à traverser les frontières jusqu'à nous. Mais pour les cinéphiles, le cinéma australien, ce n'est pas rien. Alors ce n'est pas un grand cinéma dans sa globalité historique, en fait il a surtout brillé durant deux décennies particulières, les années 70 et 80. C'est à ce moment-là qu'il va connaître une renaissance, après des années difficiles. Une renaissance à la fois en termes de qualité, avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague australienne et ses chefs-d'œuvre, mais aussi en termes de quantité avec le succès de L'Osploitation, qui désigne son cinéma d'exploitation, constitué d'une ribambelle de films de genre, tous plus déjantés les uns que les autres. Deux domaines distincts à bien avoir en tête, mais dont la frontière n'est pas totalement hermétique, car elles se confondent parfois, comme nous allons le voir. Le cinéma australien s'est définitivement réveillé en 1971 avec deux films sortis simultanément, La Randonnée de Nicholas Roeg et Waking Fright de Ted Kotcheff. Alors ce ne sont pas des films tournés par des réalisateurs australiens mais par des anglo-saxons, mais ils ont pourtant réussi à saisir mieux que quiconque l'essence de ce pays avant tous les autres. Nicholas Roeg n'est pas n'importe qui, c'est le réalisateur anglais de Ne vous retournez pas et L'homme qui venait d'ailleurs. Sa randonnée commence de façon très étonnante et mystérieuse, avec un père de famille venu d'une grande ville qui emmène sa fille et son fils en plein désert pour un pique-nique. Mais il décide soudainement et sans aucune raison de leur tirer dessus. Il ne les atteint pas, mais il se suicide et incendie sa voiture dans laquelle il était venu. Les enfants se retrouvent alors abandonnés au beau milieu du paysage désertique dans lequel ils vont errer plusieurs jours sous un soleil écrasant. Ils finissent tout de même par rencontrer un jeune aborigène seul dans le désert avec lequel ils vont vivre plusieurs jours. À ses côtés, les deux enfants vont vivre une initiation symbolique en se détachant de la civilisation au contact de la nature aride. Nicholas Roeg filme magnifiquement les décors secs en s'attardant sur tous les détails de la nature, comme les animaux et les insectes. Waking Fright, de son côté, ou Réveil dans la terreur, est quant à lui tourné par Ted Kotcheff, qui n'est pas non plus un inconnu puisque c'est lui qui fera Rambo 10 ans plus tard. Ce Réveil dans la terreur est celui d'un professeur d'anglais qui enseigne dans une école située elle aussi dans le désert. Au moment de partir en vacances à Sydney, il fait halte dans une petite ville où il perd tout son argent au jeu. Il est alors coincé dans cet endroit peuplé de buveurs invétérés et de chasseurs de kangourous. Entre les amitiés viriles, le soleil écrasant, la folie et les litres de bière, il finira par craquer. Waking Fright nous montre sans état d'âme un visage peu glorieux du pays, mais il tape juste et fort, là où ça fait mal. Exactement comme le cinéma américain avec ses meilleurs redneck movies. Philosophie d'un côté et folie de l'autre, le cinéma australien était alors bien parti, avec deux œuvres matricielles qui posent les grands ingrédients qu'on retrouvera ensuite. Les paysages du bush et de l'outback australien, c'est-à-dire les vastes régions naturelles, sauvages et désertiques, mais aussi les aborigènes, la route, le bitume, l'alcool et le soleil écrasant.
Yeah!
Durant la suite de la décennie 70, ce sont deux cinéastes australiens qui vont s'affirmer, cette fois-ci, les deux plus célèbres. Ils incarnent les deux lignes dont j'ai précédemment parlé. Tout d'abord Peter Weir, qui va s'imposer comme le grand réalisateur de films d'auteur. Et à la fin de la décennie, George Miller, qui va lui faire exploser la série B. Peter Weir débute en 1974 avec Les voitures qui ont mangé Paris, où il met en scène une petite ville isolée du nom de Paris, dont les habitants provoquent des accidents de voiture pour en récupérer les tôles et bricoler avec des voitures monstrueuses qui leur permettront de faire la loi en ville. Un premier essai qui anticipe un peu l'esprit de Mad Max. Il enchaîne surtout ensuite avec Picnic à Hanging Rock, qui a eu un énorme succès et qui est vraiment devenu le grand film emblématique du cinéma australien. Difficile de dire pourquoi d'ailleurs, c'est effectivement un très bon film, très envoûtant, mais tout de même très mystérieux. Son intrigue tire un peu de choses, il y est seulement question de la disparition d'un groupe de collégiennes et de leur enseignante, partis en excursion pour voir un grand rocher qui semble avoir d'étranges pouvoirs. Il réalise ensuite La Dernière Vague, un film un peu moins intéressant, dans lequel un avocat prend la défense d'aborigènes accusés de meurtre, mais encore une fois des forces naturelles mystérieuses viennent perturber le récit qui devient alors de plus en plus inquiétant. George Miller s'impose lui avec fracas en 1979 grâce à Mad Max, l'histoire d'un policier faisant face à une bande de dangereux fous du volant qui iront jusqu'à menacer sa famille. Mad Max est le grand titre de gloire du cinéma de série B. Ce qui le distingue de tous les autres, c'est la vision de son réalisateur George Miller, qui était un ancien médecin. Durant son travail à l'hôpital, il a été marqué par des images chocs de victimes d'accidents de la route qui se produisaient en grande quantité à l'époque. Il s'en est alors resservi pour parsemer son récit de moments mémorables et dérangeants. Il avait aussi la volonté de casser les codes et de faire du jamais vu, ce qui a donné des scènes d'action assez folles. On y découvre surtout le magnétique Mel Gibson, qui devient alors une star. Mais Miller ne s'arrête pas en si bon chemin et donne une suite à sa saga, Mad Max 2, The Road Warrior, qui réinvente totalement l'univers en nous projetant dans un monde post-apocalyptique dans lequel de nouveaux fous du volant se battent cette fois pour les derniers litres de pétrole disponibles. Ce long métrage deviendra le maître étalon du genre post-apocalyptique et sera copié à l'envi durant les décennies suivantes jusqu'à ce que le cinéaste en fasse lui-même son propre remake avec Fury Road. La même année, Peter Weir récupère Mel Gibson pour le sublimer dans le bouleversant Gallipoli. Un film de guerre historique génial dans lequel deux jeunes Australiens se rencontrent au début de la Première Guerre mondiale et s'engagent ensuite pour aller faire la guerre en Europe. Ils vivent plein d'aventures avec leur groupe de camarades et une belle amitié va naître entre eux. Mais elle sera remise en cause lorsqu'ils devront combattre à Gallipoli sous les ordres d'un commandant brutal. C'est l'un des tout meilleurs films australiens avec un Mel Gibson au sommet. La seconde collaboration entre l'acteur et le réalisateur sera également le dernier film australien de Peter Weir avant qu'il ne s'envole en Amérique pour la suite de sa carrière. Il s'agit de L'année de tous les dangers, un beau film dans lequel Mel Gibson joue cette fois-ci un reporter en mission en Indonésie lors du coup d'État et des répressions de 1965. Il y a pour partenaire la belle Sigourney Weaver. Les années 70 australiennes regorgent d'autres films intéressants. Pour ma part, j'en pointerai deux en particulier. Tout d'abord Mad Dog Morgan, réalisé en 1976 par Philip Mora, avec un Dennis Hopper qui était bourré à longueur de journée sur le tournage. Il interprète Daniel Morgan, un immigré irlandais du 19e siècle, témoin d'un grand massacre, et qui se retrouvera enfermé dans un épouvantable bagne où il sera victime d'atroces sévices. Il finira alors par s'enfuir et deviendra un criminel assoiffé de vengeance. Un film trépidant qui mériterait d'être plus connu. Il faut ensuite parler de Long Weekend de Colin Eggleston, sorti en 1978 sur un couple en crise qui passe un week-end dans un endroit isolé au bord de la mer pour chasser et faire du camping, loin de la civilisation. Long Weekend est un film très audacieux, puisque son méchant n'est pas un psychopathe ou un monstre, mais la nature elle-même, qui se défend de leur manque de respect. C'est donc une sorte de film d'horreur écologique, et ce qui est très fort, c'est qu'il n'y a rien de fantastique ou de surnaturel. Le réalisateur n'utilise que sa mise en scène pour créer le suspense et le mystère et faire monter la tension jusqu'au climax.
Listen to the sound of evil. It is out there, waiting. Powerful, deadly, invisible. They came to take a holiday.
Ta-da!
Now, they are running for their lives. Because something is out there.
Les années 80 nous ont elles aussi fourni plusieurs films marquants, notamment du côté de la série B. Avec par exemple Road Game, un excellent thriller avec Stacy Keach et Jamie Lee Curtis qui s'ouvre sur une scène de meurtre d'anthologie. L'acte est le fait d'un tueur en série qu'un chauffeur de poids lourd va traquer avec l'aide d'une autostoppeuse. Un film pensé comme un hommage aux fenêtres sur cour d'Alfred Hitchcock. Le réalisateur d'Highlander va pour sa part nous livrer en 84 Razorback. L'histoire d'un sanglier géant qui décime des maisons en fonçant dedans à toute vitesse et qui sera rapidement pris en chasse. Au-delà de l'histoire de monstre, ce qui fait l'intérêt du film, ce sont surtout ces images incroyables lorsque le personnage principal se perd dans le désert de l'arrière-pays ou lorsque les véhicules circulent dans la nuit. Certains plans ressemblent à des tableaux composés avec des couleurs hyper marquées, presque psychédéliques, ce qui donne quelques scènes magiques. Il faut enfin faire une passe de choix à Fair Game, sorti en 86. Moins connu que les autres, ce film dingue vaut largement le détour. On y suit les mésaventures d'une femme vivant seule dans un lieu retiré et encore une fois désertique. En charge d'une réserve naturelle, elle va s'opposer à un groupe de chasseurs de kangourous qui la harcèle avec un énorme 4x4. Mais elle survivra et se vengera avec inventivité. Hyper efficace, il résume à lui seul tous les éléments présents dans la plupart des œuvres évoquées jusqu'ici. Des voitures monstrueuses, des phares dans la nuit, la chasse aux kangourous et des fous du volant. Bref, une vision caricaturale mais aussi parlante du cinéma australien. Mais la décennie se conclut avec un autre superbe thriller qui nous sort complètement de cette vision en nous larguant sur un bateau en pleine mer, Calme Blanc. Mais pour en savoir plus, je vous invite à écouter la précédente émission qui l'évoquait déjà.
Une femme est morte.
Je croyais que vous pourriez savoir ce qui lui est arrivé.
Il est revenu.
Et de qui tu parles ?
D'un vieil ami.
Mais ce pays cache quelque chose. Quelque chose qui vit. Dieu l'a créé. L'enfer lui a donné son nom. Razorback.
Voilà pour ce petit tour d'horizon du cinéma australien. Pour en savoir plus sur la partie exploitation, je vous invite à regarder le documentaire Not Quite Hollywood, sorti en 2010, avec une interview de Quentin Tarantino en fil rouge. Quentin Tarantino étant l'un des plus grands promoteurs de ce cinéma à l'international. L'émission arrive maintenant à son terme, je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site internet de Radio B et sur les pages YouTube et Facebook de l'émission. A bientôt.
Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale, injection, bon flash. Je roule. Je roule. Libre comme l'air. Je suis l'aigle de la mort, bonhomme.